Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, le bilan est provisoire, 65 personnes tuées en Algérie. L'Algérie en lutte contre les flammes, ces incendies de forêt qui depuis plusieurs jours affectent maintenant le nord du pays. Parmi eux, 28 militaires, des pompiers qui ont perdu la vie alors qu'ils tentaient avec des moyens souvent en deçà de la violence des incendies. Ils essayaient de protéger les populations et les maisons, mais malgré tout, il y a ces images qui nous parviennent de maisons calcinées, de forêts dévastées, de routes qui sont endeuillées par des véhicules couchés sur le rebord, des véhicules qui eux aussi sont fumants, des véhicules qui ont brûlé, des véhicules qui n'ont pas pu résister à la puissance des flammes qui aujourd'hui sont en train de dévaster des régions entières entre Tizi Ouzou et Béjaïa. Notamment, le président Tebboune a décrété un deuil national. Il y a aussi la communauté algérienne politique qui commence à se mobilisés qui s'interrogent sur les intentions criminelles des pyromanes. Au moins 3 ont pu être arrêtés parce que les départs de feu étaient simultanés, donc de façon tout à fait intentionnelle, semble-t-il. Les forêts, les maisons ont été dévastées. Pourquoi ces gestes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont malades? Est-ce que ce sont des personnes qui ont manifesté là des gestes de révolte politique ou sociale? On ne sait pas, mais en tout cas, notamment le FFS qui s'inquiète aussi des moyens qui sont engagés par l'État en pareille situation. C'est vrai que pour la protection civile algérienne, face à l'ampleur de la catastrophe, ces moyens aujourd'hui sont quelque peu en deçà de ce qui aurait été nécessaire pour venir à bout des flammes. Mais pour l'instant, le combat se continue contre les incendies en Algérie. L'Algérie qui continue à avoir des difficultés concernant ses ressources en eau. On vient d'apprendre qu'il va y avoir de nouveaux plans de rationnement de l'eau dans la capitale. En tout cas, ce sont 6 communes de Alger qui sont impactées puisqu'il y a une réparation qui est prévue sur l'une des canalisations principales du transfert des eaux. En raison de ces travaux, il n'y a pas de ressources additionnelles qui permettraient de ne pas couper l'eau. Donc ce sont des mesures qui vont être rendues nécessaires dans les prochains jours. Mais on s'attend et l'on espère bien évidemment un rétablissement prochain du service de l'eau sur l'ensemble des communes de la capitale algérienne. Inquiétude en Libye, on est toujours sans nouvelles de Rida Faraj Fraiti, c'est le chef de cabinet du premier vice-premier ministre du gouvernement d'unité nationale. Cet homme a disparu depuis plusieurs jours. On est sans nouvelles. Il a très vraisemblablement été enlevé. La mission de l'ONU est très inquiète. Sa famille, également toutes les autorités administratives de la Libye à Tripoli se demandent ce qu'il est devenu. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de traces, pas d'indice, en tout cas probant qu'il soit parvenu jusqu'aux journalistes qui pourrait permettre de dire voilà ce qui est en train de se passer. Mais le fait est, c'est que c'est une disparition qui inquiète. Alors, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais parallèlement à cette disparition, on peut noter cette tension, ce regain de tension, va-t-on dire, entre le Premier ministre Dbeiba, qui vient de réitérer ses convictions quant au fait que l'armée libyenne ne doit pas être contrôlée par une seule personne, ni par une organisation politique, pas d'affiliation politique, dit-il. Ceci est en réponse à la décision qui a été prise par Haftar, l'homme de l'Est libyen, qui a déclaré que ses troupes ne sauraient se subordonner à un gouvernement qui n'a pas été préalablement élu par le peuple libyen. Et puis aussi, Haftar a fait des nominations au sein de ses forces armées. Or, il avait été prévu initialement qu'il n'y aurait plus de nominations tant qu'une force armée nationale libyenne ne verrait pas le jour. Donc voilà, aujourd'hui, l'actualité politique libyenne tourne autour de ces déclarations qui disent la difficulté à s'entendre entre l'Ouest et l'Est sur le devenir des forces armées libyennes et surtout comment réussir la transition entre cette Libye post-révolutionnaire et la Libye de demain que l'on espère moderne et efficiente. C'est le pôle judiciaire, économique et financier de la Tunisie qui vient de l'annoncer. 12 personnes sont interdites de voyage, 12 personnalités d'importance, parmi elles un ancien ministre. Alors le nom n'a pas été cité, mais il y aurait, selon la presse tunisienne, des accointances avec Salim Feriani, c'est l'ancien ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. A signalé également que l'ancien directeur de la Société Générale des Phosphates également n'a plus le droit de voyager à l'étranger. Ce sont des mesures qui ont été prises dans le cadre d'enquêtes qui sont conduites actuellement dans le cadre du programme de lutte anti-corruption qui sont aujourd'hui conduits en Tunisie. Sur le front du Covid, la présidence a annoncé qu'une journée porte ouverte sera organisée dimanche pour mener la vaccination à destination des 18-39 ans, vacciner le plus vite possible. Il y a eu ce record, c'était il y a de cela quelques jours, 500 000 personnes, même plus, qui ont été vaccinées en une journée. Et pour accélérer le mouvement, les pharmacies tunisiennes seront autorisées à vacciner à compter de lundi prochain. Au Maroc également, toujours des inquiétudes concernant les chiffres du coronavirus. Il y a eu 105 décès hier, c'est important, c'est une augmentation, il ne faut pas se voiler la face, mais il n'en reste pas moins que pour l'instant, il y a toujours ces mesures qui sont prises à l'échelon national en vue de limiter les propagations, en vue de limiter le rassemblement trop important de population, et puis toujours le rappel à la nécessité absolue de respecter les gestes barrières, de bien porter les masques pour limiter la propagation de Covid-19. Dans le monde arabe, en Irak, c'est cette grande opération qui vient d'être engagée par les forces de sécurité irakiennes dans la province d'Al-Anbar pour essayer de traquer les restes du groupe État islamique. Quand on consulte quotidiennement la presse irakienne et les sources qui sont sur place font état d'un combat incessant contre le groupe État islamique qui n'est plus en mesure depuis longtemps d'engager des opérations d'envergure. C'est vrai que ces dernières semaines, il n'y a pas eu d'attaque véritablement majeure, mais le groupe est toujours menaçant. D'où ces opérations. Ce n'est pas la première fois que Bagdad lance des opérations de lutte antiterroriste et en visant plus spécifiquement le groupe État islamique, sachant qu'à la fin du mois, il y aura cette grande réunion internationale, toujours à Bagdad, pour faire le point sur la lutte antiterroriste dans la région proche-orientale.
Attaque, combat, guerre.
Notre escale du jour est une nouvelle fois l'Afghanistan. C'est vrai que ça bouge tellement vite que nous y retournons pour prendre des nouvelles des talibans qui auraient pris le contrôle des principaux postes de frontière de l'Afghanistan avec le Tadjikistan ainsi que l'Ouzbékistan. Une huitième capitale provinciale est tombée aux mains des insurgés qui continuent de progresser vers Kaboul avec ces problématiques de réfugiés qui se posent. L'Allemagne a décidé de ne plus reconduire les migrants qu'elle renvoyait en Afghanistan, estimant que la situation est devenue tellement difficile sur le terrain qu'il ne servait à rien que de renvoyer des migrants là-bas. Pour l'instant, les forces armées afghanes se battent, même s'il y a des cas de défection. Plusieurs centaines de combattants se sont rendus aux forces talibans. Est-ce qu'ils se sont rendus avec leurs armes? Est-ce qu'ils vont retourner leurs armes contre Kaboul? C'est aujourd'hui une question qui est pleinement ouverte. Et puis aussi, il y a la responsabilité des pays voisins, comme le Pakistan. On sait que des années durant, le Pakistan a considéré que les talibans étaient des amis, qu'ils pouvaient y trouver refuge, ce qui a ô combien provoqué l'exaspération du président américain Donald Trump, qui avait demandé à plusieurs reprises aux Pakistanais d'arrêter ce qu'il nommait le double jeu. C'est vrai que la relation entre le Pakistan et les États-Unis est fortement dépréciée. Rappelons que Oussama Ben Laden, lorsqu'il a été neutralisé par une équipe américaine, il était sur le sol national pakistanais. Et la raison pour laquelle l'opération était secrète, c'est que les Américains n'avaient pas confiance dans les Pakistanais, donc ils ont préféré faire l'opération en solo. Mais le fait est, c'est qu'il va bien falloir trouver des puissances qui soient en langue avec le Pakistan. Le Pakistan qui a une attitude somme toute assez ambiguë. D'un côté, il dit qu'un émirat taliban lui serait totalement inacceptable. D'un autre côté, c'est vrai qu'il bénéficie d'une position d'antériorité. Et puis comment va se construire, comment se prépare cette victoire talibane? Malgré tout, on y pense, puisque les Américains l'ont dit, l'ont répété, ils ne vont pas rester, ils peuvent procéder à des frappes, ils peuvent envoyer les forces spéciales si besoin, mais il ne peut plus y avoir le soutien, la protection de Kaboul, comme ça a été le cas. Donc ce sont finalement les puissances régionales qui vont agir et réagir. Les Russes, eux, connaissent le dossier afghan, ils ne veulent pas y retourner. L'Inde sait que la situation est éminemment tendue. L'Iran pourrait avoir la tentation, mais elle a déjà beaucoup de dossiers intérieurs. Pourquoi se lancer sur ce théâtre? À part la lutte anti-drogue, l'Iran n'a pas envie de s'engager plus. Donc c'est vrai que beaucoup de regards se tournent aujourd'hui vers le Pakistan en se demandant, mais que va-t-il faire maintenant? Comment gère-t-il aujourd'hui cette poussée des forces talibanes? Et si les talibans prennent Kaboul, comment se dessinera la relation entre Islamabad et Kaboul? C'est vraiment une question qui se pose. Et pour l'instant, les autorités pakistanaises sont très précautionneuses quant au déclaratoire qui est le leur face à cette progression qui semble inexorable des talibans vers le pouvoir en Afghanistan. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.